Bonjour Nicolas Righetti.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, merci.
Vous rentrez de Transnistrie, c'est ainsi qu'on accueille les reporters lorsqu'ils sont à chaud dans un studio pour nous parler de leur travail. Et vous en avez ramené beaucoup de photos de Transnistrie, des photos au format panoramique que l'on pourra voir dans ce livre, tout frais, tout chaud même, oserais-je dire, puisque vous en avez récupéré la plupart des exemplaires aujourd'hui encore. Transnistrie, le pays qui n'existe pas, aux éditions que je ne sais plus.
Aux éditions Favre.
Favre, voilà.
Pour la version française et pour la version anglaise, édition Large Network.
Large Network et Transnistria. « The country that doesn't exist ».
Exactly.
Voilà le titre en anglais. C'était facile, vous me direz. C'est le même qu'en français. C'est un travail dont vous avez l'habitude, Nicolas Righetti, celui de partir dans des pays fermés au monde. J'ai cité tout à l'heure la Corée du Nord. Il y a aussi à votre tableau de chasse le Turkménistan. Et là, vous vous êtes intéressé à ce pays qui n'existe pas. Et pourquoi ? Parce que il borde la frontière nord-est de la Moldavie contre l'Ukraine. Et ce pays, en fait, existe depuis la fin de l'éclatement de l'URSS aux environs de 91 à peu près. C'est un pays qui de facto a pris son indépendance et il n'est reconnu que par trois pays et lesquels, on va citer l'un d'entre eux, l'Ossétie par exemple. C'est vous dire si ce pays est très 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 enclavé. Et la particularité d'un pays qui n'existe pas, eh bien, c'est qu'on ne peut pas en sortir. En revanche, on peut y rentrer et c'est ce que vous avez fait, Nicolas Righetti. Vous êtes un habitué de ces pays les plus fermés de la planète. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la Transnistrie au point que vous avez passé beaucoup de temps là-bas pour réaliser les photos que vous allez montrer d'ailleurs dans une exposition dont on parlera?
Oui, écoutez, moi c'est toujours je trouve que c'est toujours passionnant de découvrir en fait des zones grises. C'est ce qui me touche en fait pour moi en tant que photographe le plus. Surtout en fait de s'y confronter, surtout en fait d'essayer en fait d'aller au-delà des chemins. Enfin, des chemins plutôt, voir et essayer en fait de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe derrière en fait ces pays totalement fermés. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, de découvrir.
Alors, il y a les pays, il y a aussi les habitants de ces pays, parce que ça, on parle toujours finalement de la mise en scène dans ces pays, puisque si ce sont des pays fermés comme la Corée du Nord ou le Turkménistan, c'est parce que effectivement, ce sont des régimes dictatoriaux, autoritaires, on les appelle comme on l'entend, mais enfin, reste que ce sont des pays fermés dans lesquels nul n'a la liberté d'expression et parfois pas du tout de liberté de déplacement. Ce sont des pays assez particuliers parce que ils sont, disons, la queue de la comète communiste. Finalement, d'une certaine façon, c'est-à-dire que on a dans ces pays-là affaire souvent à une sorte de communisme scientifique. Je reprends l'expression que vous aviez employée dans une interview, mêlée avec une forme d'adoration religieuse du grand leader. Alors, est-ce que la Transnistrie se distingue de ces autres pays, ou est-ce que effectivement on est dans la même catégorie, que ce soit le Turkménistan, la Syrie, la Corée du Nord ou la Transnistrie?
Non, alors pas vraiment. En Transnistrie, en fait, il y a eu Smirnov qui a été au pouvoir pendant presque 22 ans. Et en fait, Smirnov a construit le pays. C'est lui qui a commencé la guerre contre la Moldavie. C'est lui qui a réussi à séparer la Transnistrie à la Moldavie, et c'est lui qui en fait qui a construit, qui a façonné ce pays. Par la suite, il y a eu en fait, c'était pas tout à fait une démocratie, mais en même temps, chaque année, chaque 5 ans, il y avait des votations, et c'est vrai que Smirnov tous les gagnait tout le temps. Et ce que j'ai pu vivre moi en 2011, c'est-à-dire les élections, et Poutine l'a totalement lâché, et tout d'un coup, Smirnov est tombé, et c'est un jeune Shevchuk qui a repris en fait le pouvoir. Et à l'époque, lors de mes deux premiers voyages, j'étais sous le régime de Smirnov. Et là, j'ai bien compris que c'était pas tout à fait un dictateur. Certains, comme mon guide me disait, c'est une dictature molle. C'est-à-dire qu'on se connaît tous, on est une grande famille, mais la peur était simplement politique. Mais c'était pas comparable à un niveau de la Corée du Nord.
Lorsque vous dites on se connaît tous, enfin lorsque votre guide vous dit on se connaît tous, faut quand même préciser que la Transnistrie c'est pas exactement le sous-continent asiatique, c'est tout petit.
C'est tout petit, c'est en fait très très long en fait. C'est tout petit et très très long, c'est-à-dire que ça a 250 km de longueur et par moment de largeur, ça a un maximum 10 kilomètres. Donc on est vite sur la frontière ukrainienne ou moldave. Et en fait, c'est une longue panoramique, comme une très très longue photo panoramique.
Est-ce que c'est ça qui explique le format de vos images, qui sont des des images au format panoramique?
Oui, on pourrait le croire. Non, j'ai choisi en fait le format panoramique pour d'autres choses, non.
Lesquelles? Enfin, pour quelles raisons?
Alors d'abord pour plusieurs raisons. J'ai d'abord choisi ce format-là parce que j'ai fait tout un travail dans ce livre Transnistrie, un pays qui n'existe pas, intérieur. Et c'est là où ça a été en fait ma grande surprise en Transnistrie, c'est de découvrir les gens dans leur milieu où ils vivent. C'est-à-dire qu'ils vivent, bien sûr, comme en Union soviétique, hein, tout est resté pareil. On sent qu'il y a des générations qui a de l'histoire, qui a des parents, des grands-parents qui ont vécu. Il y a une espèce c'est extrêmement rempli, quoi. C'est plein. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'est aussi de montrer aussi pas seulement le personnage, mais vraiment dans son lieu. Et ce qui m'a encore le plus surpris, c'est que chez certains, il y a un mélange presque asiatique, c'est-à-dire que je me retrouvais dans des salons où il y avait pas mal de tapis au mur. Et je me retrouvais, en fait, dans des lieux comme au Turkménistan. Et j'ai compris que là, on est entre deux mondes.
Effectivement, on est entre deux mondes, entre le monde asiatique et le monde occidental. Et c'est un pays qui est une bande de terre, on le rappelle, coincée entre la Moldavie au nord-est et le sud-ouest de l'Ukraine. Est-ce que les transnistriens se considèrent comme tels, Nicolas Righetti?
Oui, alors... C'est assez difficile à répondre à cette question. Hein. Moi, il m'a fallu 5 voyages pour mieux comprendre, en fait. Bon, moi, je ne parle pas russe. J'ai un guide qui était professeur à l'université de Tiraspol, qui est donc la capitale de la Transnistrie, et qui parlait donc français et anglais. Et j'ai pu, grâce à lui, mieux comprendre. Ils vivent un paradoxe, les Transnistriens. C'est-à-dire, le premier paradoxe, c'est de vouloir devenir un vrai pays. Ils ont leur propre constitution, leur drapeau, leur monnaie, leur armée, leur président, leur poste, leur... enfin, tout, quoi. Ils ont comme un vrai pays.
Comme un vrai pays.
Ouais. Ouais. Mais en même temps, ils parlent russe, ils rêvent russe. Et ils pensent russe, et pour eux, la chose la plus importante, c'est leur attachement à la Fédération de Russie. Donc il y a ce paradoxe-là, entre deux choses. Un, de devenir indépendant, et deux, d'être attaché à la Russie.
Dans votre livre, Nicolas Righetti, on a donc ce format long pour pouvoir y rentrer vos photos panoramiques et vous rencontrez beaucoup de personnalités. Ça, c'est peut-être une différence avec vos livres précédents qui montraient plutôt les villes, les paysages et la façon dont le pouvoir est exposé partout. Les photos du grand leader en Corée du Nord ou les photos de Bachar el-Assad en Syrie. Là, il semblerait que la nouveauté, c'est que vous avez pu rentrer en contact avec les gens.
Tout à fait. En Corée du Nord, on n'a aucun contact, même parce qu'on est constamment gardé par des guides qui ne nous laissent pas avoir contact avec la population. Et même si on a contact avec la population nord-coréenne, de toute façon, ils ne parlent pas anglais et ils ont peur. Au Turkménistan, c'est plus facile, mais en même temps, il y a un problème de langue. Là, j'avais en fait la possibilité, grâce à mon guide, de pouvoir voir ses amis, de pouvoir voir ses élèves, de pouvoir en fait connaître en fait en profondeur ces gens qui vivent tant à Tiraspol que dans d'autres villes du pays.
Alors, comment les avez-vous rencontrés? Par quel biais? Par quel réseau? Est-ce que c'était du hasard? Est-ce que c'était des amis de votre guide?
Alors, c'était un peu tout, en fait. Pour être sincère, c'était tout, quoi. Et quelquefois, je demandais à connaître une ouvrière, à pouvoir rentrer dans une usine, à pouvoir parler au chef de service, au directeur, et puis de pouvoir photographier. Alors, bon, bien sûr qu'il faut des permis, ça prend pas mal de temps, mais en même temps, petit à petit, on y arrive. Et en fait, ce qui m'a donné, en fait, une large comme une photo panoramique, une large vision en fait des citoyens qui vivent en Transnistrie.
Parmi ces citoyens, il y en a un qui a cette phrase que je trouve moi personnellement absolument extraordinaire et qui m'a beaucoup fait rire. Il s'appelle Sergueï Guevski, il est présentateur à la télévision et il dit « On nous compare souvent à la Corée du Nord, mais c'est faux, on n'est simplement pas ouvert au tourisme ».
Oui, ça c'est vrai. Oui, lui en fait travaille en plus dans l'entreprise de Shérif, on aura le temps d'en discuter. Donc c'est un peu le journaliste vedette, hein. C'est un peu le Darius Rochebain, notre Darius Rochebain. Et c'est vrai, il allait même plus loin que cette phrase-là. Il me disait, mais tu comprends Nicolas, si on va s'ouvrir au tourisme, on risque de perdre notre âme.
Voilà. D'autres personnages assez hauts en couleur et qui montrent bien les paradoxes qu'il peut y avoir dans ce pays, la Transnistrie, il y a Pavel, lui il est caméraman pour la télévision, il dit « Les journalistes étrangers donnent une mauvaise image de notre pays, ils sont comme nous finalement, pas libres de dire ce qu'ils pensent ».
Oui, assez juste. Hein. Pour lui, Pavel qui m'a... passablement filmé, parce que ce qui est assez drôle, c'est que quand on rentre plusieurs fois dans ce pays, et comme il y a peu d'étrangers qui y vont...
On vous suit, quoi,
voilà,
c'est
c'est-à-dire c'est l'événement, tout Tiraspol connaît, etc. Et les journalistes s'intéressent, et souvent je suis passé à la télévision transnistrienne, et de temps en temps, on m'invite boire non seulement le café, mais aussi la volka chez eux. Et c'est là où on discute beaucoup. Et il reprochait justement aux journalistes occidentaux d'avoir une vision très un petit peu sectaire, en disant voilà, c'est le trou noir de l'Europe, ils viennent trois jours, ils doivent absolument trouver des armes atomiques, ils doivent absolument photographier des statues de Lénine, et puis ils me disent en trois jours, ils n'ont vraiment pas le temps de comprendre en fait la mentalité et la réalité du pays.
Et vous-même d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, Nicolas Righetti, vous êtes allé la première fois à Transnistrie, on vous parlait d'une dictature, et pour finir, vous disiez non, mais au fond, c'était plutôt une dictature molle, quoi. C'est une espèce d'entre-deux, exactement à l'image de ce pays coincé entre la Moldavie et l'Ukraine.
Oui, exactement. Il y avait donc une présidentielle forte, hein, bon, il y a plusieurs termes, hein, autocratique ou autre, hein, là, mais il y a eu un changement de régime, hein, en 2011. Il y a eu vraiment une surprise. Hein, il y a eu Poutine a changé en fait. A choisi un autre personnage du gouvernement qui avait exactement le même âge, qui s'appelle Kaminski à l'époque. Et en fait, c'est un outsider, un jeune qui a exactement mon âge, qui est devenu en fait président et qui s'appelle Tchektchouf et qui a maintenant, en fait, depuis trois ans, est président de la Transnistrie. Et là, il y a eu un réel sursaut, en fait, des Transnistriens qui ont voulu vraiment changer, en fait, de régime et qui ont voulu en fait sortir simplement de la pauvreté, parce que ça reste quand même le pays en Europe le plus pauvre.
Lorsque vous rentrez en Corée du Nord, lorsque vous allez dans ces pays fermés, évidemment que vous ne déclarez pas que vous êtes journaliste, Nicolas Righetti, qu'avez-vous dit pour passer la frontière de la Transnistrie ?
Alors, détrompez-vous, c'est très facile. C'est-à-dire que on a le droit de rentrer en Transnistrie pour 24 heures. Alors, c'est toujours assez spécial de rentrer en Transnistrie, parce que d'abord il y a trois frontières, ce qui est déjà pas mal pour un pays qui n'existe pas. D'abord, la première, c'est la Moldave, ouais. La deuxième, c'est le maintien de la paix, et ce sont en fait des Russes qui sont quand même bien armés avec un tank pointé sur la voiture, et la troisième, la vraie frontière, ou peut-être la fausse frontière, puisque le pays n'est pas reconnu, c'est celle de la Transnistrie. Et là, il faut sortir de la voiture, obtenir, signer des papiers, et on a le droit de visiter le pays pendant 24 heures.
Bon, c'est suffisant, 24 heures. Vu la taille du pays, une capitale qui compte 100 000 habitants.
Moi, il m'a fallu 5 mois.
Non, mais vous faites un travail en profondeur. Mais...
Oui.
Non, parce que j'ai fait quelques recherches sur Internet en me disant, mais comment fait-on pour aller en Transnistrie? Et il se trouve qu'il y a des tours organisés au départ de la Moldavie avec un bus qui, effectivement, traverse les frontières. Mais le site Internet précisait bien que les différents ministères des Affaires étrangères des pays européens, disons, ne recommandaient pas fortement une visite du pays. Il y avait quelques risques de ci, de là. Avez-vous pris des risques dans ce pays, Nicolas Righetti?
Écoutez, je crois pas. Non, je crois que moi j'ai toujours été alors très très surpris. Moi en fait, contrairement à la Corée du Nord, contrairement au Turkménistan, contrairement aussi à la Syrie, je me suis vraiment présenté en tant que photographe et en demandant vraiment de pouvoir être le plus libre possible. Et j'ai dû obtenir des permis sur place, quelquefois plusieurs permis. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Mais j'étais assez bien accueilli. Et le fait de revenir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois, te les permis s'enchaînaient beaucoup plus rapidement.
C'est un travail, on le répète, que vous avez fait au format panoramique. Vous avez fait ça avec un smartphone ou est-ce que vous avez pris un appareil photo et le smartphone dans un but de discrétion, bien évidemment.
Oui, alors c'est un appareil, c'est pas un smartphone, mais c'est quand même un tout petit peu meilleur. Mais c'est un appareil assez étrange. Il est tout petit, ça c'est un Pocket. C'est un Kodak, en fait, qui a été réalisé en 2006 et qui est assez génial. C'est-à-dire qu'il donne un grand angle qui déforme un tout petit peu. Et ce qui est très intéressant, je parlais avant des photos à l'intérieur qui donnent justement un vaste champ, mais aussi pour l'extérieur, ce qui est incroyable en Transnistrie, c'est qu'ils ont gardé toutes les statues bien sûr de Lénine, ouais, mais ils ont gardé aussi tout ce décorum soviétique à l'infini. Et c'est vrai que tout d'un coup, on a l'impression qu'on visite le pays, qu'en fait c'est des maquettes un petit peu partout, quoi, qu'il y a des maquettes comme le pays était totalement maquetté. Et ce format-là donne justement ce petit côté maquette.
La notion de maquette ou de décor, je prends à dessein le mot de décor, vous l'avez déjà employé pour parler de la Corée du Nord. Vous disiez, au retour de ce pays, où vous êtes allé plusieurs fois, on a le sentiment d'être dans un décor de cinéma.
Oui, alors tout à fait. Là, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pouvoir sans mise en scène. Hein. Et là, le décor est savamment orchestré. C'est-à-dire qu'ils ont gardé vraiment tout le décor soviétique. Mais non seulement le décor, les statues ou autres, ou monuments, la gloire de l'URSS, mais aussi toutes les fêtes. Hein, toutes les fêtes anciennes. Et j'ai même pu assister à une célébration que je ne pensais que ça n'existait plus. C'était au mois de février. Je me souviens bien, c'était en fait la fête de l'entrée de l'armée soviétique à Kaboul en 1979. Donc ça doit être un peu peut-être le dernier pays qui fête encore ça.
C'est un pays aussi qui fait fortement penser à la lecture des pages de votre livre, à une sorte de pays imaginaire pour un James Bond, si vous voyez ce que je veux dire, avec des personnages haut en couleur, des bodybuilders, des femmes qui sont sociologues et qui vont finir serveuses à Moscou. Et puis cet homme-là qui dit « Oui, je suis recherché par Interpol, on m'accuse d'avoir tué des gens et d'avoir vendu des armes atomiques. » Si c'est vrai, ça fait vraiment froid dans le dos. Et le type est là tout souriant avec évidemment un t-shirt Che Guevara. C'est assez étonnant. Il dirige un mouvement politique qui s'appelle ProRive.
Oui, exactement. Alors, je l'ai bien connu, lui, parce qu'en plus, il parle bien anglais. Hein, et c'est un des rares qui parle bien anglais, parce que dans cette région-là, reculée de toutes parts, l'anglais est très peu couru. Et ça, c'est vrai qu'on est même devenu ami, entre guillemets. Et c'est un jour, c'est même lui qui m'a dit, tu te rends compte, j'étais chez lui à un barbecue, je jouais avec ses enfants, il me dit, tu te rends compte que Interpol te me cherche partout et qu'ils me disent que j'ai tué deux personnes. Et le journal Le Monde, Libération, rien que pour te les citer, ouais, disent que j'ai vendu des armes atomiques. Et tu es là chez moi. Peux-tu croire ça? Et ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. On n'a qu'à sourire à ces moments-là. Ce qui était le plus drôle, c'est qu'ils ne pouvaient pas en fait sortir du pays. Et ils faisaient énormément de yoga. Et tout d'un coup, j'ai pris en fait une photo de lui sur son toit. Justement, il est dans le livre. Ouais. Et il faisait aussi beaucoup, beaucoup de yoga sur son toit. Et il avait inventé un slogan fantastique qui était « Le yoga ou la mort
». Sur l'ère de la révolution ou la mort des révolutionnaires.
C'était en fait Fidel Castro ouais, à la fin de la chute de l'URSS, ouais, disait « Le socialiste ou la mort ».
C'est un drôle de pays, vraiment, que ce pays dont vous nous parlez, la Transnistrie, Nicolas Righetti. Vous avez effectué donc ce reportage photographique au long cours. Et vous disiez là que cet homme ne peut pas sortir de son pays, mais ont-ils une liberté de déplacement, les Transnistriens? Est-ce qu'ils ont des passeports valables dans la mesure où le pays n'est pas reconnu par la communauté internationale?
Alors, il y a un passeport pour rire, hein, c'est-à-dire, qui nous fait rire nous, mais eux moins. C'est-à-dire que c'est un passeport qui n'a même pas une carte d'identité, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir avec leur passeport. Mais ce qu'il faut savoir, que quand on parle de Transnistriens, il y a toute une grande partie de la population qui est d'abord un moldave, oui. Deuxièmement ukrainienne, et la troisièmement qui sont russes. Donc ils ont tous souvent un, deux, voire trois passeports. Donc avec ça, ils peuvent sortir du pays. Donc ce n'est pas un pays fermé. Le problème, c'est qu'économiquement, il y a une telle pauvreté, que les salaires sont de 150 à 200 $ par mois. Il y a un taux de chômage de 70 voire 75%. Donc, en fait, la fermeture est plutôt économique.
Voilà pour la Transnistrie que vous avez photographiée, Nicolas Righetti. Ce livre sera verni ce vendredi, c'est à 18h, lancement du livre. Et ça va se passer chez Large Network, si
exactement,
ma mémoire est bonne.
Exactement, à la galerie Large Network. Oui. Exactement.
C'est rue de l'Ancien Port à Genève et c'est à 18h. On reviendra, si vous le voulez bien, aussi sur vos autres travaux un petit peu plus tard dans cette émission, mais pour continuer encore sur cet étrange pays qu'est la Transnistrie, est-ce que vous avez assisté là-bas à un culte de la personnalité identique à celui que vous auriez pu voir en Syrie ou au Turkménistan, dans l'idée que, bon, par exemple, au Turkménistan, on voyait le visage du leader Niazov, on le voyait sur des bouteilles de vodka, des emballages de savon, des paquets de pâtes. Chez les Assad, eh bien, il y a affiches et posters obligatoires dans tous les lieux possibles et imaginables, y compris des bâches de camions, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Est-ce que pour la Transnistrie, c'est la même chose?
Non, pas du tout. Non, on ne voit pas du tout, en fait. Même sous l'époque de Smirnov, il y avait deux, trois tableaux de lui, bien sûr. Actuellement, c'est Chevchouk qui a le pouvoir, et là, on ne voit aucune image de lui. La seule image, en fait, présente, c'est celle de Poutine.
Voilà, qui reste quand même l'homme fort du coin, on peut le dire.
Qui reste en fait le patron du coin.
C'est le patron.
Sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h.
Retour à vous, Nicolas Righetti, en duplex de notre studio de Genève. On a évoqué cet amour, cette passion, que dis-je, cette passion que vous avez pour ces pays fermés, ces pays un petit peu autres, pays d'un autre temps. Est-ce que c'est ça aussi, finalement, qui, blague mise à part, bien sûr, qui vous attire dans ces pays? On les cite à nouveau, la Corée du Nord, le Turkménistan, la Syrie dans une moindre mesure, mais ces pays qui semblent être une survivance d'un autre temps. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu le dernier témoin de l'existence de ces pays lorsque vous vous y rendez?
Oui, ça, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que c'est un petit peu à la fin. C'est un peu, il y a eu la chute de l'URSS qui a commencé déjà avant 89, la chute du mur. Après, ça a été 91 et puis maintenant avec le drame qui se passe actuellement en Ukraine, on sent que c'est un peu en fait la fin d'une idéologie, la fin d'un mythe et la fin d'un rêve pour tout un peuple, oui.
La photographie et le voyage, c'est une façon pour vous aussi de mettre dans votre besace une autre de vos passions qui est l'histoire?
Oui, c'est vrai que j'aime en fait l'histoire. En fait, j'aime en fait plutôt, en fait, j'allais dire mon histoire. Hein. Dans histoire, il y a le toit et je pense que ça, c'est vrai que j'ai souvent envie de ces lieux m'attirent parce que j'aime en fait ces zones grises et je dois avoir une partie en moi de zones que je dois aller sonder et quelquefois il est plus facile d'aller voir ailleurs que dans mes frontières.
Alors parfois ça se fait de façon un petit peu périlleuse, avec certains risques, on le sait. Vous avez été arrêté 17 fois en une semaine lors d'un voyage au Turkménistan, arrêté 3 fois seulement en Syrie, la Syrie de Bachar al-Assad. Je suis un petit peu déçu, je m'attendais à mieux de votre part. Et lorsque vous étiez en Corée du Nord, alors là, bon, c'était totalement encadré, donc évidemment vous n'avez pas été arrêté, vous étiez pris en charge, voire quasi otage dès le départ et jusqu'à votre départ du pays. Comment ça s'est passé au Turkménistan? Racontez-nous, peut-être pas la première, mais peut-être la 15e fois que vous avez été arrêté, parce que là, vous deviez vous dire, non mais là, maintenant je suis connu dans le pays.
Oui, enfin, le problème, c'est vrai que, comme vous dites, la Corée du Nord, on est de toute façon encadré, et comme ils ont une très mauvaise image, ils ne veulent surtout pas avoir de problème, donc il n'y a aucun problème qui s'y passe en Corée du Nord. Le Turkménistan, c'est un peu différent. Hein. J'étais encadré quand même avec des guides officiels, mais il y a quand même une certaine violence, c'est-à-dire que le régime était extrêmement violent et extrêmement violent aussi envers son peuple. Et là, on prenait souvent pour un Iranien, parce qu'il faut savoir que le Turkménistan a une longue frontière avec l'Iran, et il y a beaucoup d'Iraniens qui vont au Turkménistan pour aller boire de l'alcool, puisque en Iran, ils ne peuvent pas. Et donc, ils ont une mauvaise image, les Iraniens, sur place, et on prenait souvent pour un Iranien, et ça se passait souvent très mal, quoi.
Lorsqu'on est arrêté une première fois, une deuxième, une troisième, voilà, ça commence à devenir un petit peu routinier, mais est-ce qu'il y a quand même des moments où vous avez senti une certaine tension autour de vous ?
Oui, quand même une certaine tension, une certaine aussi vengeance. Hein. C'est des pays qui inconsciemment se vengent sur l'Occident, qui donne toujours cette mauvaise image du pays, et puis dès qu'ils ont chopin, j'allais dire, ils en profitent pour le faire payer un petit peu. Et ça, c'est vrai que il y a aussi une société totalement corrompue au Turkménistan, donc il y a quand même plusieurs fois, on m'a demandé 10, 20, 50 dollars pour me relâcher, quoi. Donc il y a aussi un problème aussi d'argent.
Et lorsque vous avez été arrêté en Syrie, comment ça se passait ?
Alors, étonnamment, ça se passait très très bien. Hein. J'étais plutôt des élections de Bachar el-Assad, et puis c'est vrai que je me balade avec un énorme appareil photo qui est un 6-6 là, et qui est un moyen format encore avec du film, donc je passe pas inaperçu, donc tout de suite il y a trois personnes en civil qui m'arrêtent, qui me demandent de mon passeport. Alors je montre le passeport suisse qui marche toujours assez bien encore maintenant, et puis ils font juste une confirmation, et puis ça se passe assez bien. C'est plutôt facile. C'était en tout cas à l'époque plutôt facile, bien
sûr. Ouais. Combien de fois êtes-vous parti en Corée du Nord ? 4 fois, je crois, j'imagine. Est-ce que vous avez le sentiment, avec ces 4 voyages en Corée du Nord, que vous avez pu comprendre un peu plus de ce pays et de ses habitants, surtout ?
Alors, c'est une bonne question. Ses habitants, non, on n'a pas accès à tous les habitants, malheureusement. On a juste accès à nos guides. Alors, comme j'ai été 4 fois, donc j'ai eu 4 guides différents, donc j'ai
parce
pu connaître...
Parce que les précédents auraient été contaminés par vous, donc j'imagine qu'ils ont
non.
été...
Non, non, je n'espère pas, mais je crois pas. Non, mais ce qui est intéressant, et ce que j'ai retrouvé un tout petit peu de Corée du Nord en Transnistrie, c'est-à-dire que ils ont rien. Ils ont juste en fait leur fierté. Et c'est en fait un peuple comme en Corée du Nord qui se disent « mais nous on est très différents des autres, on sait qu'on est le seul pays à vivre comme on vit ». Et il y a une espèce de fierté nationale d'être différent. Et c'est ça que je pourrais dire en fait, tout simplement.
Nicolas Righetti est notre invité. Je rappelle que vous êtes photographe, Nicolas Righetti. On va parler là d'images qui bougent, si vous le voulez bien, en compagnie de Raphaël Wolff, puisque l'info du jour est consacrée à Netflix.
Sur la première, l'info du jour de Vertigo.
Netflix, c'est donc cette plateforme américaine de vidéos à la demande. Elle va s'implanter en France le 15 septembre et elle va produire sa première série hexagonale de 8 épisodes baptisée Marseille, Raphaël.
Bah oui, il fallait s'y attendre, hein, dans un geste princier destiné sans aucun doute à apaiser un brin les défenseurs de l'exception culturelle. Netflix va donc produire une série 100% française. Alors pour rappel, dès l'annonce de l'implantation du service de VOD américain sur le sol hexagonal, les autorités françaises ont tapé du poing, fort, très fort, histoire d'exiger que les méchants dirigeants de Netflix ouvrent un bureau en France, payent leurs impôts en France, suivent les mêmes règles de financement de la création audiovisuelle en France. Mange français, s'habille français, épouse des femmes françaises, je sais pas. Bon, bah là, c'est raté. Au final, Netflix est installé à Amsterdam et s'acquittera donc de ses impôts aux Pays-Bas.
Ils vont moins bien manger, ça, ouais. C'est sûr. Ouais.
Ah, c'est vous qui le dites. Hein, mais bon. Bon, mais le Nord, en tout cas, il est sauf. Netflix donc va produire français, marseillais même, avec cette série annoncée comme le House of Cards, qui était le grand succès de Netflix, de la Canebière.
Ça parlait de quoi, House of Cards ?
Alors, c'était des malversations politiques autour de Washington avec Kevin Spacey. Enfin bon, c'est assez connu. Mais bon, l'appel d'offres lancé par la plateforme de VOD a été remporté par Pascal Breton, producteur de Sous le Soleil. Vous savez, ce chouette feuilleton TF1 situé pas très loin, à Saint-Tropez. Alors, le tournage est prévu au printemps prochain pour une diffusion fin 2015, avec un avantage évident sur toutes les créations Canal+, puisque la série sera accessible dans tous les pays où Netflix est présent. Alors, de quoi ça va parler, allez-vous me dire ? Eh ben, d'une guerre de succession politique entre le maire de la ville depuis 25 ans, Jean-Claude Gaudin, Robert Tarot et son dauphin. Évidemment, toute ressemblance avec des personnages ayant existé serait parfaitement fortuite. Et Marseille oblige, il sera aussi question de mafia, de syndicats et...
de l'OM.
Évidemment. Évidemment. Bah, forcément, quand on dit Marseille, on dit football. Et pour vous donner un avant-goût de ce House of Cards à la sauce plus belle la vie, on vous a concocté la bande-annonce fictive du premier épisode de Marseille.
Rien ne semble pouvoir arrêter Frank Underwood.
Vous avez déjà tué quelqu'un.
Bon, j'ai fait le tour du Mistral et apparemment tout le monde vient à la soirée de ce soir.
Tu veux que j'enterre l'affaire, que je fasse comme si je ne savais rien ?
Je sais comment gérer le bonhomme.
Qu'est-ce que vous faites à Marseille ?
Qu'est-ce que c'est que ce quartier de pouilleux ?
Je vous avais oublié, pensiez-vous ? Vous l'espériez même, peut-être.
Derrière chaque grand homme se cache une femme.
Mais ce qui s'est passé avec Guillaume était une erreur !
Eh bien, je suis désolé, Claire. Je suis réellement désolé.
Je demande le divorce.
Merci Raphaël Wolf. Voilà, vous savez, il y a des gens qui vont en Transnistrie, qui vont au Turkménistan, en Corée du Nord, que sais-je. Mais Marseille.
Ah, tout est là.
Tout est là.
Mais oui.
Tout est là. Mais oui, c'est évident. Pourquoi pas aller à Marseille, Nicolas Righetti ? Je vous pose la question finalement.
Ah, j'adorerais, bien sûr. Et j'y suis déjà allé.
Oui.
Bien sûr.
C'est peut-être plus difficile d'avoir un appareil photo dans certains quartiers de Marseille qu'en Transnistrie ou en
peut-être,
Syrie.
Peut-être, oui, sûrement.
Il y a peut-être plus de risques, je ne sais pas.
Il faut en avoir plusieurs.
Il faut en avoir plusieurs, voilà, c'est ça. Ouais. Dans le coffre de l'hôtel, bien évidemment. Nicolas Righetti, notre invité, je vous le rappelle, pour la publication de ce livre, La Transnistrie, le pays qui n'existe pas, vernissage vendredi. C'est à 18h à la Galerie Large Network, ça se trouve rue de l'Ancien Port à Genève. J'aimerais qu'on parle d'une chose qui a été quand même très importante dans votre carrière et probablement dans votre vie personnelle, Nicolas Righetti, c'est ce World Press Photo que vous avez remporté en 2007. Le World Press, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ça correspond à peu près aux Oscars de la photographie, c'est-à-dire les prix les plus importants accordés aux photographes de par le monde. Et vous êtes nombreux, les photographes, ici, dans un rayon de 100 km à peu près, à avoir remporté des World Press. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan de la notoriété, est-ce que tout à coup vous avez eu le sentiment peut-être d'exister un petit peu plus ici, en Suisse, un pays qui parfois met du temps à reconnaître les qualités de ses photographes ? Je prends quand même l'exemple, René Bury qui a été récompensé alors qu'il va allègrement vers ses un petit peu plus de 80 ans.
Ben c'est exactement ça. Moi, j'ai été très surpris parce que je me suis dit, quand j'ai gagné ce prix-là, que j'allais pouvoir toucher d'autres médias au niveau de l'international. Et pas du tout, en fait. J'ai été en fait reconnu ici, sur mes terres genevoises, tessinoises. Et c'était plutôt assez drôle et plutôt surprenant. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup plus de commandes photos grâce à ce prix-là et pas du tout au niveau de l'international.
À l'international, que se sont-ils dit que tout à coup, vous étiez devenu trop cher ? C'est ça ?
Non, mais pas du tout. Mais bon, ils me connaissaient déjà un petit peu. Quoi. Je travaillais déjà avec Newsweek, avec New York Times. Mais ce qui est marrant, c'est que on a parfois l'impression qu'il faut être reconnu à l'extérieur pour que réellement les gens nous prennent au sérieux à l'intérieur, donc sur nos terres.
Entre World Press, qu'est-ce qu'on se raconte ? Des histoires de photographes ? T'es allé où ? T'as fait quoi ?
Oui, ben bien sûr, il y a une espèce de joie de partager toutes ces difficultés. Il y a une espèce aussi de reconnaissance aussi de toutes ces de ces passions, de ces passionnés qui sont là. Et oui, ça fait du bien pour l'ego et ça fait Et oui, c'est toujours c'est un plaisir, mais en même temps, les lendemains ne sont pas toujours roses. Et c'est vrai que t'en oublies vite.
Alors, c'était il y a 7 ans, maintenant.
Ouais.
Est-ce que vous avez le sentiment, Nicolas Righetti, que parfois ça peut être même un frein pour rentrer dans certains pays, parce que maintenant vous êtes de plus en plus connu, on connaît votre travail, on sait bien que vous portez un regard, certes distancié, mais parfois un petit peu acide et critique sur ces pays très fermés que vous nous faites découvrir. Est-ce que ça vous a fermé des portes ailleurs? C'est-à-dire qu'on vous a dit, écoutez, on vous connaît, on sait très bien ce que vous allez faire, non, vous ne viendrez pas chez nous.
C'est arrivé... en Transnistrie, hein, quand t'as la télévision de Chérif, t'as voulu faire des sujets sur moi parce que tu me voyais arriver plusieurs fois dans ce pays. Ils ont été sur Google, puis ils ont vu que je travaillais pas mal sur les dictatures. Et tout de suite, j'ai eu 2-3 politiciens qui m'ont dit « Vous faites quoi ici? Vous êtes là pour dénoncer quoi ?» Et pas du tout. Moi, j'ai dû, c'est vrai, expliquer un petit peu ma démarche, etc. Et je crois que si on est sur place, si on est honnête, si je crois que ça pose pas trop de problèmes, non.
Alors, pour expliquer votre démarche, on pourrait signaler que vous avez également fait un livre en compagnie de Pierre Grosjean qui s'appelle Calvin World. Et au fond, vous êtes interrogé sur le calvinisme, sur Genève, Calvingrad, où là, effectivement, il n'y a pas de culte de la personnalité, mais en son temps, disiez-vous à l'époque, lorsque vous parliez du livre et de votre travail, c'était probablement un monde tout aussi oppressant que les dictatures dont on parle aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que... on commence par faire le ménage chez soi avant d'aller chez les autres.
Oui, bon, on pourrait penser comme ça. C'est vrai qu'on a fait tout un travail avec Pierre Grosjean pour le 500e anniversaire de Jean Calvin, où on a fait vraiment le tour du monde pour aller chercher 40 Calvins. Oui. Sur les 4 continents, des gens qui s'appelaient Calvin. Et c'était en fait un petit peu aussi pour ouvrir, pour justement pas... Parce que Calvin, chez nous, c'est on l'aime ou on le déteste, ou une grande partie de la population s'en fiche un peu. Donc c'était en fait pour ouvrir un petit peu le débat et pour dire que le mot Calvin est important dans le monde entier.
Mais alors, vous qui considériez que le monde de Calvin, en son temps, était un monde très oppressant, très dictatorial, pour utiliser ce mot. Est-ce que c'est pas là, finalement, que se trouve en germe votre passion pour ces pays fermés?
Je crois pas, je pense pas. Non, moi je crois que je suis peut-être plus attaché à l'histoire... au mythe, j'allais dire soviétique, à ce communisme dépassé, c'est ça qui m'intéressait. C'était en fait de mieux connaître un petit peu ce passé. Et en fait, le passé de Calvin, c'est clair qu'il a toujours mauvaise réputation au niveau artistique, mais dans d'autres domaines, comme dans la finance ou autre, ça a ouvert beaucoup de portes. Et je serais quand même, disons, plus modéré à parler de Jean Calvin.
Est-ce que Nicolas Righetti, vous avez le sentiment que votre travail est en permanence du journalisme, ou est-ce que comme pas mal de photographes quand même aujourd'hui, il faut bien le dire, vous êtes à une frontière assez indécise entre le journalisme, le photojournalisme et l'art, la photographie d'art?
Oui, moi je suis pas journaliste du tout. Moi j'ai fait d'abord des écoles à l'Institut d'études sociales, donc j'ai été éducateur au départ, et par la suite j'ai fait ma formation aux Beaux-Arts, donc je me sens pas du tout journaliste. Par la suite, c'est vrai que j'ai travaillé chez Ringier dans un journal à dimanche.ch, donc j'ai en fait pas mal bourlingué, j'ai un peu un parcours assez atypique. Mon travail, je pense, photographique, il est avant tout artistique. Je me prononce en tant qu'artiste, mais en mélangeant en fait ma passion qui est aussi journalistique. Donc je suis, comme vous dites, entre deux.
Oui, sur une frontière un peu indécise.
Voilà. Exactement. Ouais. Un peu sur la frontière transnistrienne.
Avec la Moldavie ou avec l'Ukraine?
Plutôt la Moldavie.
Plutôt la Moldavie. Alors, blague mise à part, il se trouve que vous avez donc photographié le régime syrien de Bachar el-Assad, montré l'omniprésence de l'image de Bachar el-Assad un petit peu partout en Syrie. Et puis, vous avez publié un livre qui n'était pas du tout opportuniste, mais simplement, il se trouve que ce livre-là a été publié au moment où on commençait à parler de plus en plus de la Syrie. Et semble-t-il, grosso modo, à peu près tous les endroits où vous passez, il va s'y passer quelque chose. Alors, une prédiction pour la Transnistrie, que va-t-il se passer pour ce pays? On sait aujourd'hui les problèmes qu'il y a en Ukraine, on sait la main de la Russie sur la région, vous le disiez tout à l'heure, le patron là-bas, c'est Poutine. Que voyez-vous, sans vouloir lire dans les étoiles, pour la Transnistrie?
Non, écoutez, moi, je suis pas du tout divin. Non, mais je pense que actuellement, la Transnistrie passe une très mauvaise phase. Hein. Ils sont un peu dans une voie sans issue, c'est-à-dire qu'ils sont pris en sandwich entre la Moldavie qui lorne sur l'Europe et pris en sandwich de l'autre côté sur l'Ukraine qui appelle depuis hier au secours par rapport à l'OTAN. Donc, pour l'instant, ils sont sur une voie extrêmement complexe et extrêmement difficile, et ça, c'est vrai que leur seule chose qui peuvent en fait sortir de ce pays, c'est ou l'intégration avec la Moldavie, mais qu'ils le feront jamais. Donc en fait, ce qu'ils attendent, c'est ils attendent le patron, quoi.
Voilà, ils attendent Poutine. Et puis alors, grâce à votre livre, j'ai découvert un autre pays formidable, la Gagaouzie. Oui, il y a la photo de deux représentants de la Gagaouzie libre qui disent « La Transnistrie est un exemple pour nous ». Ivan Bourgoudji, représentant de la Gagaouzie en Transnistrie. Alors là, on est vraiment, vous savez, dans les fractales, c'est-à-dire qu'on voit une forme qui contient sa forme, c'est la vache qui rit, quoi. C'est-à-dire le truc qui se répète à l'infini. Jusqu'où ça ira la désagrégation de cette région? Parce qu'on a le sentiment que voilà, chaque village, finalement, pourra réclamer plus ou moins son indépendance.
Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors la Gagaouzie se trouve non pas en Transnistrie, mais se trouve au sud de la Moldavie. Hein. Ouais. Ils sont, en fait, eux, c'est une région autonome. Et ils sont restés en fait dans le giron moldave. Mais par rapport à ce que j'ai pu discuter avec Ivan, donc le responsable de la Gagaouzie, ils sont très mécontents, et pour eux, la Transnistrie est un modèle. Et pas plus tard que cette année, au mois de février, le début, je crois que c'était le 2 février, il y a eu une votation populaire pour le rattachement aussi à la Fédération de Russie. Ouais. Exactement. Et paraît-il que la population a voté à plus de 95%. Oui.
Voilà. Et c'est une superficie de 1800 km², il y a 160 000 habitants, je le précise, hein, en Gagaouzie.
Exactement. Et c'est donc des turcophones qui sont russifiés, et c'est très intéressant.
Ça nous fait rire, mais c'est très intéressant quand même, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, Nicolas Righetti. Je rappelle la publication de votre livre, Transnistrie, le pays qui n'existe pas. Et le vernissage de ce livre, c'est vendredi dès 18h à la galerie Large Network. Ça se trouve rue de l'Ancien Port à Genève. Merci à vous. Bonne fin de journée. À très bientôt.
Merci.